la stratégie de David face à Goliath. Émission proposée par John Graz à partir de son livre « Fortifie-toi et prends courage ».
Rien n'arrête ce qui marche au nom de l'Éternel. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit au Philistin, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. » 1 Samuel 17, 41 à 47.
Petite histoire écrite par John Graz. Pour nos contemporains, nous pouvons être perçus comme des gens bizarres. Nous ne buvons pas, nous ne fumons pas, nous ne mangeons pas de porc, nous observons le sabbat du septième jour. Même nos amis manifestent parfois une aimable condescendance. John Graz, il représente les adventistes du septième jour. Oui, on les a invités. Pour certains d'entre eux, nous sommes parfois à la frontière de la marginalité. Je me souviens d'une conférence sur les sectes au siège du magazine La Vie à Paris. Un journaliste s'informait auprès des organisateurs au sujet des invités. La réponse fut « Il y a même des adventistes ». Nous n'étions pas sur notre terrain. Parfois, cela se fait avec un brin d'humour. J'avais invité l'un des dirigeants anglicans de Cape Town à notre 6e congrès mondial de la liberté religieuse. Pour faire la promotion de notre événement, il m'a présenté à la fin du service dominical aux membres de son église. Je vous présente Dr. John Graz. Il est adventiste, mais, et après un silence de 2 secondes, il a ajouté, c'est quelqu'un de bien. J'étais sur son terrain. À la fin du congrès, il m'a invité chez lui pour un repas avec sa famille. Il m'a dit qu'il avait été impressionné par notre action en faveur de la liberté religieuse. Écoutons maintenant le message de John Graz.
Quel enfant n'a pas été captivé par l'histoire de David et Goliath? C'est probablement l'une des histoires la plus racontée. Le petit David, armé d'une fronde et de 5 cailloux, contre le géant Goliath, avec son armure, son casque, sa lance et son épée. Avec vous, John Graz, et je suis très heureux de vous retrouver pour cette émission. Quand on raconte l'histoire aux petits, l'histoire de David et de Goliath, on représente David comme un petit garçon. Bien sûr, cela permet aux enfants de s'identifier avec lui. Et pour accentuer le contraste avec le terrible Goliath, Goliath, un géant énorme. Alors évidemment, pour un enfant, Goliath représente tout ce qui fait obstacle à ses rêves, tout ce qui lui fait peur, tout ce qui le terrorise, un cauchemar. Il le connaît, ce Goliath, et la victoire de David devient la sienne. Quand on grandit, le David de l'histoire grandit aussi. Il devient l'adolescent de 17 ans qu'il était, sans peur, sans reproche, courageux, fidèle. Il fait face avec confiance aux défis que lui pose l'entrée dans le monde des adultes. Puis, les années passant, et même si on prend de l'âge, les injustices nous révoltent encore. Alors, David devient le pauvre, le petit, l'exclu, le laissé pour compte, qui fait face au puissant, celui qui renverse tous les pronostics et qui gagne le combat malgré les apparences. Identifiez tout ce qui ressemble à Goliath dans votre vie. Tout ce qui menace votre marche vers le bonheur, vos acquis, tout ce qui semble vouloir détruire vos rêves, détruire vos valeurs, vos espoirs, votre paix. Une facture impayée, un examen raté, une maladie, une rumeur, un travail, une dispute, une rupture, une déception. Qui est notre Goliath? Qui est votre Goliath? Ce Goliath qui nous terrifie. Mais la question, est-il si puissant que cela? Quels sont ses points faibles? Comment faire pour le vaincre? L'histoire commence avant le combat sur le champ de bataille. Souvenez-vous, à cette époque, Samuel le prophète est le guide d'Israël. Mais le peuple veut un roi. Le peuple veut être gouverné d'une main bienfaisante, juste et ferme. Il n'y a pas de chose plus démoralisante que le sentiment de ne pas être gouverné. Car gouverner, c'est aussi protéger. Et avoir un roi comme les autres peuples signifiait avoir une armée, un commandant en chef capable de défendre la terre promise. Le peuple veut un roi et à contre-cœur, Dieu l'ordonne. Saul, Saül, il devient le premier roi d'Israël. Mais l'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi, il n'observe point mes paroles. » Vous trouvez ce texte dans le premier livre de Samuel, chapitre 15, verset 11. Samuel va lui annoncer la mauvaise nouvelle. Il lui dit « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël ? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël ?» Et la sentence tombe au verset 23. « Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Il est tentant pour les puissants d'oublier que leur puissance est un don de Dieu. Et comme il est écrit dans le livre de Job, « Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de Dieu soit béni. » Dieu choisit un autre souverain qui lui obéira. Et selon son ordre, Samuel se rend à Bethléem, dans la famille d'Isaïe, et c'est là qu'il va trouver le futur roi. Les enfants d'Isaïe défilent devant lui, en commençant par Éliab. Il est impressionnant. Mais Dieu dit au prophète, « Ne prends pas garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » Suit ce très beau principe qui est essentiel pour comprendre l'histoire de David et de tous les héros de la Bible. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe, c'est-à-dire à l'apparence, mais l'Éternel regarde au cœur. Dieu n'est pas impressionné par le bling-bling. Nous vivons dans un monde où l'apparence est très importante. C'est ce que j'ai appris dans mon ministère pendant des années, et c'est ce que je dis aussi aux étudiants. Le premier message que vous donnez, c'est votre apparence. Quand vous avez une visite officielle, la première chose que voit la personne que vous rencontrez, c'est votre apparence. Déjà, avant que vous ayez prononcé un seul mot, vous êtes évalué. Ensuite, vient ce que vous dites, vos premières paroles. Je vous invite éventuellement à lire mon livre « Ambassadeur » ou à participer à certains séminaires pour en savoir plus sur ce sujet. Mais quand vous faites, par exemple, une émission de télévision, vous devez arriver une heure avant. Pourquoi ? Pour le maquillage. Et pourquoi ? Parce que on veut faire le maximum pour améliorer votre apparence. Si vous faites de la politique à un haut niveau, c'est une équipe tout entière qui va travailler pour développer une image positive de vous-même. Et cela aussi en fonction du message que l'on voudrait vous faire passé. Si vous êtes jeune, on soulignera le dynamisme, l'esprit d'innovation, et si vous êtes âgé, on soulignera votre expérience, votre sagesse. On se souvient, enfin moi je me souviens, de la réponse de Ronald Reagan à son opposant qui mettait en doute ses capacités de gouverner. Vous savez, c'était pendant la campagne présidentielle aux États-Unis. Alors, son opposant mettait en doute la capacité de Reagan de gouverner vu son âge. Et Reagan dit « Je ne ferai pas de l'âge un problème de cette campagne. Je ne vais pas exploiter à des fins politiques la jeunesse et l'inexpérience de mon adversaire. » Dieu, lui, regarde au cœur. Dieu seul connaît le cœur de tous les enfants, des hommes, écrit Salomon. Jérémie, le prophète, dit « L'Éternel des armées est un juste juge qui sonde les reins et les cœurs. » Et dans la Bible, le cœur de l'homme n'est pas le centre de ses émotions, comme on le conçoit aujourd'hui, mais le cœur de l'homme est la source de sa personnalité consciente, intelligente, le lieu de ses choix. Alors, quand on dit que Dieu regarde au cœur, c'est-à-dire Dieu regarde à notre personnalité la plus intime, la plus profonde, celle que nous essayons parfois de dissimuler sous les apparences. Revenons à David. L'armée d'Israël est terrassée par l'apparence de Goliath. Dieu regarde au cœur, mais l'armée d'Israël et son roi regardent à l'apparence, et l'apparence, c'est Goliath. Goliath paraît puissant, invincible, arrogant, et personne, y compris Saül, n'a le courage de l'affronter. La Bible le décrit ainsi. Il mesure 6 coudées et 1 empan, ce qui fait plus de 2,80 m. Sa cuirasse seule pèse 60 kg. La description du géant a vraiment de quoi effrayer même le plus courageux des soldats. Et sur sa tête était un casque d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand et la pointe de sa lance pesait 600 sicles de fer. La pointe de sa lance seule pesait 6,58 kg. Goliath, c'est vraiment une machine de guerre, un tank humain, une forteresse imprenable. Pratiquement toutes les parties de son corps sont protégées. Non seulement son apparence est effrayante, mais ses paroles terrorisent ses ennemis. Il les provoque. Et avec sa voix puissante, il dit « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme pour que nous combattions ensemble. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Et cela pendant 40 jours, matin et soir, ce qui fait 80 fois. Alors nous pouvons imaginer l'effet que cela a produit sur la troupe. Personne dans l'armée du roi Saül, se sent assez fort et assez courageux pour relever le défi. Et plus les jours passent, plus le moral des Israélites s'affaiblit et bien sûr, celui des Philistins se renforce. Pour les soldats d'Israël, la bataille est perdue d'avance. Les Philistins, derrière leurs géants, sont invincibles. Saül et son armée sont tellement subjugués par Goliath qu'il lui laisse dicter ses conditions. C'est lui, Goliath, qui impose un combat singulier. Et même si cela se pratiquait de temps en temps à l'époque, Saül n'est pas obligé de l'accepter. Mais le géant a la situation bien en main. Il choisit son combat, son terrain, ses armes, il met en demeure l'armée d'Israël d'accepter. Et cela marche. Cela marche jusqu'à ce que David entre en scène. David, il n'est pas soldat. Son père l'envoie porter de la nourriture à ses 3 frères sur le champ de bataille, et tandis qu'il leur parlait, Goliath intervient et à nouveau lance son défi. Les soldats sont tellement effrayés qu'ils s'enfuient devant lui. La rumeur court que le roi comblera de richesses celui qui tuera le Philistin et qui lui donnera sa fille en mariage. Mais rien n'y fait, personne ne veut affronter le géant. David, lui, il est choqué par les paroles de Goliath. Et puisque personne ne veut l'affronter, il se porte volontaire. Saül, le roi, lui dit, « Mais tu n'es qu'un enfant, comment peux-tu combattre contre ce géant ?» Et David lui raconte comment il a terrassé un lion, un ours qui attaquait son troupeau. Mais il met avant tout sa confiance en Dieu. « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » David ne pense pas à ce qui peut lui arriver. Son peuple est humilié, son Dieu est ridiculisé, il se refuse à ne rien faire, ne rien dire et assister au massacre. Mais la question, que peut-il faire ? Il est jeune, il n'a pas d'expérience, il n'a pas d'expérience militaire, il ne fait pas le poids face à Goliath. Goliath veut un combat singulier. Alors, Saül offre sa cuirasse à David, son casque et ses armes. On essaie de l'équiper pour le rendre compatible, mais il ne peut pas marcher avec cette armure. Tout est trop lourd pour lui. Alors, et c'est le tournant de l'histoire, il met sa confiance en Dieu, il choisit ses propres armes, celles avec lesquelles Dieu lui a permis de vaincre l'ours et le lion, et en ce faisant, il échappe à l'emprise du géant et à son apparence terrifiante. Alors la Bible nous dit, il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Goliath est surpris. Le Philistin regarda, nous dit encore la Bible, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Il veut se battre avec un soldat comme lui, Goliath. Un soldat qui aurait des armes comme les siennes et selon des règles communes. Et David dit au Philistin, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » Dès lors, tout va très vite. Le géant s'approche, David court, et en courant, il prend une pierre dans sa gibecière, il la met dans sa fronde et il la lance. La pierre frappe Goliath à la tête et le géant s'effondre. C'est la panique dans son armée. Tous s'enfuirent.
Vous écoutez une émission proposée par John Graz à partir de son livre « Fortifie-toi et prends courage ».
Il y a trois leçons que j'aimerais retenir de cette histoire. La première leçon, elle s'impose d'elle-même. Il ne faut jamais se laisser abuser par les apparences. Il ne faut pas voir le géant comme il veut que nous le voyons, c'est-à-dire invincible, car il n'est pas invincible, Goliath. Et la deuxième leçon est, il ne faut pas nous voir comme le géant veut que nous nous voyons, c'est-à-dire faibles, battus d'avance, sans ressources. Par exemple, Pharaon voit le peuple d'Israël comme un peuple d'esclaves. La génération qui va quitter l'Égypte ne parviendra pas à se libérer de cette image. Vous voyez, elle est trop forte. Nous sommes des esclaves et les Égyptiens sont nos maîtres. Dieu veut leur donner une toute autre image. Il leur dit « Vous êtes mon peuple, le peuple de Dieu. Vous êtes la tête, vous êtes en haut. » Un autre exemple, Pilate voit Jésus comme un brave idéaliste égaré dans le monde des humains, sans pouvoir, sans avenir. Mais Jésus, lui, se voit comme le Fils de Dieu, le vainqueur, le roi des rois. Paul, l'apôtre Paul. Les contemporains le voient, et ils voient les premiers chrétiens, comme les balayures du monde. Mais pour Jésus, et là les premiers chrétiens s'en souviennent, ils ne sont pas les balayures du monde, ils sont la lumière du monde, les ambassadeurs du royaume des cieux. Et enfin, la troisième leçon, c'est qu'il ne faut pas laisser à l'ennemi le soin de nous imposer sa loi et ses valeurs. Quand nous devons affronter un géant, choisissons le terrain et les armes que Dieu nous donne, et non pas les siennes. C'est ce que David a fait. Il n'est pas tombé sous le pouvoir des apparences. Il a refusé le combat singulier qui lui était défavorable, et il a choisi ses propres armes. Il a fait confiance à Dieu. Goliath est un géant, mais Dieu est le créateur de l'univers. Levez vos yeux en haut et regardez, écrit Ésaïe le prophète. Qui a créé ces choses? Qui a fait marcher en ordre leur armée? Mettre sa confiance en Dieu, c'est ce que Jésus a fait. Dans le désert, Satan veut lui imposer sa vision du monde, le pouvoir. Il a l'apparence d'un vainqueur. Je te donne la puissance, le pouvoir et la gloire, mais tu te soumets à moi. Et Jésus répond, il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Et plus tard, il dira à ses disciples, à quoi servirait-il de gagner le monde si l'on perdait sa vie? Jésus a ses propres armes. À Pilate, qui lui demande s'il est le roi, autrement dit, « Montre-moi ta puissance, où est-elle ta puissance ?» Jésus répond, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Une autre manière de dire, « Nous ne sommes pas dans la même ligue. » David se réfère à la parole de Dieu. Pour lui, l'issue du combat ne fait aucun doute. Goliath veut détruire son peuple, David l'en empêchera. Il est prêt à donner sa vie pour lui et négocier avec Goliath, c'est déjà entré sur son terrain. Alors la question, est-ce que Goliath était vraiment invincible? Souvenez-vous des paroles de Dieu. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, à l'apparence. Mais ce qui frappe les yeux dissimule très souvent des faiblesses. Le regard de la foi nous offre une vision plus proche de la réalité. Il nous permet d'échapper à la puissance de l'apparence. En 2013, Malcolm Gladwell publia le livre « David et Goliath, l'art de combattre les géants ». Dans ce livre, il raconte comment des gens qui avaient des handicaps ont réussi à vaincre l'adversité et à faire une différence. Le premier chapitre est consacré aux commentaires de l'histoire de David et de Goliath. Nous y apprenons, par exemple, que la fronde était une arme redoutable à cette époque. Elle était composée de deux lanières de cuir reliées à une poche dans laquelle on plaçait un caillou. Les armées avaient des bataillons de frondeurs. Ils pouvaient atteindre une cible à 34 mètres en une seconde. Les frondeurs, comme les archers, c'était l'artillerie de l'époque. Goliath, lui, c'est l'infanterie. L'infanterie qui se déplace lentement. Sa cuirasse, son casque, ses jambières, son bouclier semblent lui assurer une protection complète, un peu comme les chevaliers du Moyen Âge. Il avait comme eux, malgré tout, un point faible. Une partie de son front était à découvert. La seule stratégie que Goliath pouvait suivre pour vaincre David était de l'attirer à lui dans un combat au corps à corps. Mais David refuse. Il se déplace rapidement, il reste à distance et il frappe avec une force et une précision extraordinaires. Sa fronde est une arme équivalente à un pistolet. Le général israélien Moshe Dayan a écrit que le génie de David a été d'utiliser une arme qui a transformé en sa faveur les rapports de force. La deuxième remarque à propos de Goliath est qu'il devait être malade. Sa maladie supposée serait l'agromégalie. C'est une tumeur qui entraîne une surproduction des glandes de croissance. Alors cette maladie a été observée chez un homme qui s'appelait Robert Wadlow, qui était le plus grand et qui a été, semble-t-il, le plus grand de l'histoire. Il mesurait 2,75 m, 2,75 m. La maladie avait des conséquences, par exemple, elle affectait sa vision. Selon la théorie de Wadlow, Goliath ne voyait pas bien. Il lui faut un certain temps, en effet, pour apercevoir David. Il lui demande de venir plus près. Il lui dit « Tu viens à moi avec des bâtons !» alors que David n'a qu'un bâton. Goliath n'est pas invincible. Il a ses points faibles. Tous les Goliaths de la terre ont leurs points faibles. Alors, que nous apprend cette histoire de David et de Goliath? En tant qu'êtres humains, nous sommes tentés d'évaluer les gens, comme les choses d'ailleurs, selon l'apparence, la rumeur ou les actes. Voir, entendre, faire. Dieu nous invite à aller plus loin. Il nous invite à regarder au cœur. Alors comment peut-on regarder au cœur? Au très fond de la personnalité. C'est difficile. L'apparence masque souvent la réalité. Selon l'apparence, Goliath est invincible. Mais David le voit avec les lunettes de sa foi en Dieu. En fait, il est plus proche de la réalité que les autres. Et il voit que Goliath n'est pas invincible. J'ai commencé en vous demandant d'identifier tout ce qui ressemble à des géants dans votre vie, tout ce qui menace vos projets, tout ce qui menace de vous neutraliser, de détruire l'image que vous avez de vous-même, ce que vous représentez, ce que vous croyez, vos valeurs, vos espoirs, vos rêves, votre paix. Cela peut être une facture impayée, un examen raté, une maladie, une rumeur, une rupture, un travail, un problème familial. Qui est votre Goliath? Qui est notre Goliath? Il croit nous terrifier? Mais en réalité, est-il si puissant que cela? Et la réponse est non. Dieu nous a bien équipés pour faire face à Goliath. L'apôtre Paul écrit aux chrétiens de la ville d'Éphèse, « Prenez toutes les armes de Dieu. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Alors, aux géants qui nous menacent, nous pourrons, comme David, envoyer ce message « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. »
Pour être pratique.
Et maintenant, pour être pratique, trois points. Le premier, l'apparence peut tromper, mais Dieu voit le cœur de chacun et protège ceux qui marchent dans l'intégrité. Deuxième point, si David a vaincu Goliath, je peux, avec l'aide de Dieu, vaincre les petits et les grands obstacles de ma vie. Et troisième point, ma force est dans mes relations de confiance et d'obéissance avec mon Créateur et mon Sauveur.
Cette émission vous était proposée par John Graz. Retrouvez le contenu de toute la série dans son livre « Fortifie-toi et prends courage ».